Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de jouer ensemble. Je vais en parler un peu sérieusement, surtout au début, puisque l'idée, c'est de proposer des savoirs de différentes disciplines et ensuite, c'est d'en faire l'écho par la pratique dansée. Alors, le travail qui m'intéresse de manière très, très générale depuis 10 ans, c'est d'essayer d'articuler ce qui se passe dans les phénomènes collectifs, que ce soit des mouvements de groupe en danse, en musique, la manière dont les personnes discutent entre elles, coordonnent leur point de vue, coordonnent leurs gestes, leur manière de parler, etc. Et d'essayer de comprendre comment s'articulent ces phénomènes collectifs avec le comportement tel qu'on le comprend, par exemple, en psychologie au niveau individuel. Alors, on a employé le terme de chercheur pluridisciplinaire. J'ai même tendance à dire maintenant indiscipliné parce que j'ai envie de refuser de partir du point de vue ou du carcan d'une discipline. Je préfère partir du phénomène, me poser des questions et ensuite convoquer les disciplines qui me permettront d'y répondre. Ce qui m'a fait voyager entre psychologie, neurosciences, philosophie, sciences de la motricité, quelques sciences plus dures. On fera un tout petit peu de mathématiques, physique, mais très simple, juste pour essayer de comprendre les phénomènes dont je veux parler. Et j'essaye donc, à partir de l'ensemble de ces disciplines, de leur rencontre, de leur percussion même, d'essayer de comprendre un petit peu cette articulation. Alors, si je voulais donner un point de vue, plutôt qu'une discipline à partir duquel je pars, c'est le point de vue de ce qu'on appelle la complexité. La complexité, c'est pas simple. C'est quelque chose qu'on dénie beaucoup à notre époque. On essaye d'éviter cette complexité pour réduire un peu nos réflexions et les faire entrer dans des choix très binaires, très catégoriques. Je pense que c'est un problème, donc je me refuse de faire ça et je propose qu'ensemble on affronte cette complexité. Donc il y aura de la complexité dans mon discours, mais je vais essayer de le rendre accessible si possible. D'ailleurs, on peut établir une règle, c'est que si à tout moment vous avez une question, vous m'interrompez, il n'y a pas de souci, je préfère qu'on comprenne un petit peu les idées plutôt que je fasse une lecture un peu professorale comme ça. Point de vue visuel, je voulais juste vous montrer quelques images et vous faire entendre quelques musiques puisqu'on arrivera à la moitié à peu près de mon discours sur la question de la musique et de son apprentissage par les enfants à travers l'improvisation. Et bon, au dernier moment, j'ai pas pu m'empêcher de laisser quelques phrases comme ça qui seront comme des jalons un petit peu dans le parcours de pensée que je veux vous proposer. Donc, dans une première partie, je vais déjà introduire des concepts, on va dire scientifiques, mais très généraux. Je vais éviter au maximum le jargon, ce sera pas toujours possible. Je vais éviter le surplus de références pour parler de la généralité des phénomènes. Dans les sciences du comportement, en général, il y a une position très classique qui n'est pas celle de la complexité, qui est celle de la simplicité. J'aurais tendance à me dire, j'ai en moi des capacités cérébrales, mentales, motrices, j'ai des capacités pour me coordonner aux autres, et grâce à ces capacités, je vais pouvoir interagir avec les autres. Je vais essayer de vous emmener vers un autre point de vue, ou en tout cas l'intersection entre les deux, qui est de dire, parce que j'interagis avec les autres, je vais pouvoir développer des capacités de coordination. La distinction entre les deux deviendra de plus en plus claire à mesure de mon exposé. L'idée, dans mon travail scientifique depuis une dizaine d'années maintenant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'une interaction. Une interaction, c'est quand deux ou plusieurs personnes, ou éventuellement plusieurs éléments dans un système physique, peu importe, mais parlons de personnes pour l'instant, agissent chacune simultanément, se perçoivent l'une l'autre en train de faire quelque chose, et l'interaction, c'est ce moment où on se perçoit mutuellement en train de faire quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans cette interaction? Qu'est-ce que ça apporte au comportement? Qu'est-ce que ça apporte de plus que ce que la personne pourrait faire lorsqu'elle est isolée des autres? Alors, pour évoquer ces phénomènes, donc la question qu'on se pose, c'est comment des comportements individuels peuvent se coordonner les uns aux autres, comme c'est notamment le cas en danse. Je vais partir avec des exemples pris dans la nature. On va s'éloigner un tout petit peu de l'être humain avant d'y revenir. Alors, les conditions d'éclairage ne sont pas optimales sur cette vidéo, ça va être un petit peu difficile à voir, mais je vais vous montrer un petit extrait. Ce sont des lucioles. Et puis je ne vais rien vous dire pour l'instant, d'ailleurs, je vais juste vous laisser les regarder. Donc, vers les petits points lumineux qui apparaissent plus ou moins sur le mur. Pardon. qu'il y a un phénomène très particulier qui apparaît, c'est que ces lucioles, là c'est pas le cas de toutes les lucioles, mais dans certaines, plusieurs régions du monde, en Asie, en Amérique, certaines lucioles flashent ensemble. Ici on voit des centaines de lucioles complètement coordonnées. Et parfois ça arrive jusqu'à des kilomètres entiers de distance les unes des autres. On a des populations entières qui se mettent à se coordonner et qui flashent littéralement ensemble. Donc ces lucioles, on a commencé à les étudier dans les années 60. Donc c'est, on va dire, assez récent comme préoccupation. Et certains chercheurs se sont dit comment c'est possible que des lucioles se mettent à coordonner leur comportement de manière aussi précise. Il y a notamment les époux Buck qui se sont intéressés à ça. Ils nous mettent en évidence qu'il y a deux phénomènes. D'une part, il y a une certaine rythmique dans le flash, et en plus, ils le font en même temps. Alors, ils ont d'abord soumis des lucioles à des flashs artificiels, et ils ont vu que les lucioles étaient sensibles à ces flashs artificiels et s'y coordonnaient. Maintenant, ils les ont mis en groupe dans des salles sombres, et ils ont constaté, exactement comme sur la vidéo, que dans un premier temps, les flashs étaient incohérents d'un point de vue collectif, et puis progressivement, par groupe, on va dire par grappe, puis à l'échelle entière de la population, ils se mettaient à se synchroniser en même temps. Alors, pour essayer de comprendre ça, on fait appel à un modèle. Ah, j'avais dit pas de jargon, donc ça c'est... Désolé. On va essayer de comprendre ce jargon dans quelques instants. On va revenir à une découverte qui est encore plus ancienne, qui est celle des oscillateurs couplés, on appelle ça comme ça. C'est Huygens, un ingénieur qui, dans les années 1665, donc il y a quasiment 4 siècles, essayait de construire des horloges de plus en plus précises. Un jour, elle est tombée malade, donc il est resté sur son lit, et d'un coup, il a vu que ses horloges s'étaient mis à battre en même temps. Alors, il était un peu déçu, puisqu'il ne les avait pas mis en route en même temps, donc ça veut dire qu'elles n'étaient pas tout à fait précises et qu'elles avaient convergé. Donc il a fait une première expérience, il les a mis dans des pièces différentes, et là, il a vu qu'elles divergeaient complètement, donc elles n'avaient pas du tout le même rythme, puis il les a remis sur le mur, et elles étaient retombées en synchrone. Alors il a poussé un peu plus loin son expérience, il a mis les deux horloges sur une planche, a disposé la planche sur les chaises, les a fait tourner, regardez ce qui se passe. Et alors il faut se mettre dans l'état d'esprit d'il y a plusieurs siècles, et imaginez sa surprise quand la planche s'est mise à trembler, littéralement, à faire trembler les chaises, jusqu'à ce que les pendules se mettent à battre de manière extrêmement synchrone, le tic de l'un correspondant au toc de l'autre, et à ce moment-là, la planche s'arrête de trembler. Donc le phénomène à l'époque l'a effrayé, et on va essayer de comprendre comment c'est possible. Alors, il n'y a pas de caméra à l'époque, donc il n'y a pas de vidéo pour ça, mais je vais vous montrer qu'on peut reproduire aujourd'hui le phénomène de manière encore plus complexe, non pas avec deux horloges sur une planche, mais avec 5 métronomes. Donc le métronome, c'est ce qui est censé avoir une temporalité extrêmement stricte et rigide. On va voir que ça ne marche pas. Synchrone, après, ça peut durer très 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 longtemps. Bon, en général, ça ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, je vais réduire le phénomène à deux métronomes, disons deux horloges. Chacune transmet une vibration sur la planche. Lorsqu'elle fait son mouvement, elle transmet une force. La planche transmet cette vibration, elle est affectée par cette activité du métronome, elle la transmet à l'autre métronome, à une autre horloge par exemple, elle va donc affecter un petit peu son mouvement. Sauf que pendant ce temps, l'autre horloge ou métronome a également une activité qu'elle transmet à la planche qui va affecter en même temps le premier métronome. Ce qui fait que les deux horloges ou les deux métronomes vont simultanément s'influencer l'un l'autre en transmettant des petites forces, des micro-forces très petites, mais transmissibles par le médium qui est la planche. Et tout ça se passe jusqu'à ce que les deux pendules convergent vers un état stable, qui est l'état dans lequel leurs forces sont opposées. Et au moment où les forces sont opposées, elles s'annulent, et il n'y a plus de vibration qui passe par la planche. Qui passe par la planche, c'est pour ça qu'elle s'arrête de trembler dans l'expérience de Huygens, au moment où on arrive à cet état stable. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cet état stable, il existe au niveau collectif. Ce n'est pas quelque chose qui est stable, qui dépend de la propriété d'un métronome, c'est ce qui dépend de leur interaction. C'est leur manière de se rencontrer, de s'influencer l'un l'autre, qui va faire émerger, qui va se faire manifester cet état de synchronie collective. Donc les comportements individuels ici sont attirés, ils subissent l'attraction d'une dynamique qui est proprement collective. On ne peut pas dire que c'est une propriété du métronome de synchroniser à l'autre, c'est une propriété du système dans son ensemble, c'est une propriété du groupe. Alors, bien sûr, je vais m'appuyer sur ce modèle pour essayer de comprendre la coordination des mouvements dans le cas des humains. Heureusement, ce n'est pas aussi simple, parce que sinon, on se verrait le matin, on se ferait coucou. Puis après, c'est fini, on resterait bloqué dans la synchronie. Donc, la complexité est là pour nous aider à développer des modèles comportementaux un petit peu plus élaborés, quand même. Alors, pour en arriver aux humains, je vais parler très, très rapidement. Je vais vous faire un résumé de neurosciences en 2 minutes. Au niveau de l'activité des neurones, il se passe le même genre de choses. Ils ont des activités relativement périodiques, s'influencent l'un l'autre, ce qui fait que par moments, ils vont synchroniser leur activité, parfois à des distances très grandes dans le cortex, si bien que des populations entières de neurones vont pulser, on va dire, pour simplifier les choses, vont pulser ensemble de concert et vont créer ce qu'on appelle une assemblée neuronale. Ce qu'on comprend ici, c'est que parce qu'ils ont chacun une flexibilité individuelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent être affectés par l'activité des autres, cela permet à une stabilité collective d'émerger. Ensemble, ils ont un comportement stable de groupe. Mais en même temps, bien qu'ils soient influencés par les autres, ils gardent quand même un certain degré d'autonomie. Ils ont quand même une manière propre de fonctionner. Ce qui fait qu'à un moment, cette assemblée ne va pas pouvoir perdurer dans le temps, sinon on serait dans un état d'épilepsie constante. Et ça va permettre à cette assemblée neuronale de se désassembler de manière très rapide. Ce sont des assemblées qui sont éphémères, qui durent quelques dizaines ou centaines de millisecondes. Si je fais un contraste avec ce que j'avais dit avant, je disais que la flexibilité individuelle permettait à une stabilité collective d'émerger, mais en même temps, cette autonomie, cette relative stabilité individuelle dans le temps, va permettre une flexibilité collective, puisque l'assemblée se désagrège, et c'est très important parce que ça va permettre à de nouvelles organisations d'émerger, de se manifester. Si quelque chose change dans l'environnement, et c'est le cas tout le temps, on va pouvoir adopter un nouveau comportement. Ça nous permet de ne pas rester bloqué dans un geste de synchronisation précis. Alors maintenant, je vais en venir au mouvement humain. Et au lieu de parler de neurones, on va parler des membres de notre corps. Alors pour étudier ça, on a fait des expériences, ça existe depuis des dizaines d'années, il y a eu des centaines d'expériences sur la question pour essayer de comprendre comment cela marche. Une très simple consiste à utiliser le mouvement rythmique, et on peut dire en gros que de manière universelle, il y a deux coordinations entre les membres qui sont particulièrement stables. Celle où on fait exactement la même chose avec les deux mains, et celle où on les alterne. Alors, je vais proposer qu'on fasse un peu tous ensemble cette expérience très simple. C'est de faire ce mouvement en alternance. Et puis, on va accélérer. On va accélérer le plus vite possible. Est-ce que vous avez réussi à conserver l'alternance jusqu'au bout ?
Non.
Pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? on peut le refaire une fois, en faisant attention à ce qui se passe. Alors, comme on est beaucoup, c'est difficile parce qu'il y a le bruit environnant, mais concentrez-vous sur la manière dont s'organise le mouvement. Probablement, je l'ai vu à différents endroits, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps, je suis musicien, ça m'arrive tout le temps. On bat en alternance, on augmente le tempo. Au début on est assez régulier, une main avec l'autre, ça produit un rythme régulier, et puis à un moment ça devient assez instable, il y a des fluctuations dans le rapport entre les deux mains, et d'un coup, pouf, on se retrouve les deux mains en même temps. Si vous n'en avez pas fait l'expérience, on va tester autrement, et ça ne fait pas de bruit, ce sera peut-être plus simple. Mettez vos mains comme ça. On les retourne. Et de plus en plus vite. Et en général, il y a un moment où il y a vraiment une bifurcation, il y a un saut qualitatif où on passe de ce mouvement qu'on appelle en antiphase, en alternance, disons, et d'un coup, on se retrouve avec les deux mains dans le même sens. Et c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, on ne passe pas progressivement de l'un à l'autre, c'est quelque chose qui est soudain. Et alors j'ai l'habitude de le faire faire, du coup, pour moi c'est assez prégnant, mais on peut très vite se rendre compte qu'il y a une sorte d'attraction, le comportement semble piloté par la relation entre les deux mains, plutôt qu'une volonté, ou plutôt que l'exercice d'une des deux mains. À un moment, on plonge vers un autre mode de comportement. Alors, ça a été modélisé par les chercheurs. Il y a ce petit dessin qui nous permet de comprendre un peu ce qui se passe. Ici, c'est quand on a les deux mains ensemble. C'est une situation qui est extrêmement stable. Ici, c'est une situation moins stable, qui est moins résistante aux perturbations. Et puis, en gros, ce relief décrit une fonction mathématique qui nous dit, voilà, quand on est dans une situation très instable, comme ici, imaginez vous êtes sur le sommet de ce relief en skateboard, vous pouvez basculer vers l'un ou l'autre, mais vous êtes plus profondément attiré ici par cet état très stable, par ce qu'on appelle un bassin d'attraction en mathématiques. Le comportement est littéralement attiré par ces situations qui sont plus stables. En fait, si on prend en compte tous les composants du mouvement qui permettent au mouvement d'exister, on peut comprendre que l'interaction qui existent entre tous ces composants ont des solutions qui sont plus stables que d'autres et qui vont attirer notre agir de manière plus spontanée vers ces stabilités-là. En gros, le mouvement, ce n'est pas quelque chose qui part de rien et qui répond à un contrôle qui dirait « je vais faire tel mouvement ou tel mouvement ». Il y a déjà une influence, une préorientation du mouvement vers ces états de stabilité. On peut appeler ça des tendances spontanées. Alors, ce qui est très intéressant dans ces études, c'est que lorsqu'on essaye de modéliser ce comportement, ce saut entre un agent de mouvement vers un autre, et qu'on le fait avec deux mains, en tapant sur les genoux par exemple, en les retournant, ou alors qu'on essaye de le faire avec une main qui essaye de suivre un métronome en alternance, ou alors qu'on demande à deux personnes différentes qui ne sont donc pas liées physiquement entre elles, de faire exactement la même chose, ou de le faire avec leurs jambes, ou de se balancer dans des rocking chairs, par alternance, etc., etc. À chaque fois, on retrouve les mêmes mécanismes, on retrouve la même loi qui fait passer d'un mouvement à l'autre, grossièrement la même loi. Donc ça veut bien dire que ces changements de comportement, ils ne sont pas déterminés par les propriétés des éléments, les propriétés cérébrales, les propriétés de la main, des membres, etc., mais elles répondent bien à des lois très générales de l'interaction entre plusieurs éléments qui auraient une influence l'une sur l'autre. C'est ce genre d'étude qui a permis de comprendre que l'interaction avait une sorte de pouvoir causal sur le comportement qui n'était pas uniquement déterminé par des propriétés. Oui ?
Pourquoi ça se passait apparemment que dans un sens de l'antiphase vers la phase et pas
l'inverse ? Alors, ça c'est le cas parce que le mouvement en phase est beaucoup plus stable. On peut observer des transitions dans l'autre sens, mais elles sont beaucoup plus rares. Et notamment, si on accélère, on finit par se retrouver en phase. Et si on décélère, on ne se retrouve pas en antiphase, mais par contre, on peut plus facilement y accéder de nouveau. Tout simplement, si je reprends la figure d'avant, c'est parce qu'il y a une très grande différence de stabilité entre les deux états. Voilà. Donc, avec ce que j'ai montré là, on peut comprendre du coup que lorsque nous sommes deux éléments d'un système, par exemple deux personnes en train de danser, deux personnes en train de converser, deux personnes en train de jouer de la musique, on a des effets l'un sur l'autre, au point que l'on devienne une sorte de groupe à part entière, et qui a une influence coordinatrice sur nous. C'est-à-dire que le fait d'avoir des influences réciproques et mutuelles va avoir tendance à nous faire converger dans nos comportements respectifs. Ça a été observé dans des expériences où les personnes n'avaient pas l'intention de se coordonner, donc c'est pas forcément l'exercice d'une volonté. Ça arrive à peu près toutes les semaines dans le métro, dans le corridor un peu étroit, vous croisez quelqu'un, pardon, et puis en fait on finit par danser un peu ensemble. Là on n'a pas l'intention de se coordonner, on a l'intention inverse. De passer notre chemin le plus vite possible pour ne pas attendre une minute pour le prochain métro. Mais on finit par se coordonner complètement. Donc c'est à l'inverse de nos intentions. C'est donc pas le résultat d'une volonté qu'on voudrait appliquer. Donc il y a des expériences de laboratoire un peu moins amusantes qui le montrent. On peut également demander à des participants de volontairement faire quelque chose de différent des autres et on retrouve encore des effets de coordination, même si le but c'est précisément de ne pas faire l'inverse, de faire quelque chose de différent, etc. Et la leçon à retenir de ça, c'est que la coordination des mouvements, ce n'est pas qu'une capacité qu'on peut appliquer, c'est parfois même plus difficile de ne pas se coordonner que de se coordonner, du fait de ce pouvoir très, très attracteur de la coordination. Alors j'avais fait une expérience il y a quelques années où je voulais montrer que c'était bel et bien l'interaction qui avait ce rôle de coordination. J'ai demandé à des personnes de coordonner des pulsations entre elles, juste en se regardant, et puis sans leur dire, elles se voyaient par des écrans télé, sans leur dire, je coupais l'écran télé d'une personne par moment. Ce qui fait qu'il y a un seul individu qui pouvait voir l'autre, mais pas l'inverse, contrairement à ce qu'ils croyaient. Si la coordination, c'était une capacité personnelle, quelque chose qu'on peut contenir dans la tête, dans le cerveau, dans les fonctions mentales, motrices, ça ne devrait pas affecter les performances des personnes, puisqu'elles exerceraient le même type de capacité, voir l'autre et s'y coordonner. Si l'interaction a un rôle, alors manipuler, dérégler cette interaction devrait normalement détériorer les performances. J'ai pu observer que, effectivement, lorsque les personnes se voyaient mutuellement, lorsqu'il existait un réel processus d'interaction, elles étaient beaucoup plus coordonnées entre elles, c'est-à-dire qu'elles variaient, il y avait moins de différence entre les moments où elles donnaient les coups, c'était beaucoup moins variable, mais en plus de ça, elles étaient plus régulières au niveau individuel, c'est-à-dire que l'interaction ici avait un pouvoir de stabilisation du comportement. Le slogan que j'utilise pour dire ça, c'est quand on fait les choses ensemble, on obtient plus d'effets pour moins d'efforts. En gros, c'est tout bénéfice. Nous pourrions en tirer de nombreuses leçons de la vie quotidienne ou politique. C'est un message qui a encore du mal à passer, mais le faire ensemble fait quelque chose pour nous. L'interaction fait quelque chose pour nous. On peut s'appuyer sur elle pour obtenir des capacités, comment dire, des performances collectives meilleures et des performances individuelles meilleures. Donc l'hypothèse très générale sur laquelle je travaille, c'est qu'on peut participer au comportement d'autrui, ainsi qu'à l'expérience vécue qu'il a, via ces dynamiques collectives, via ce processus d'interaction. En interagissant, on peut orienter le comportement d'autrui, le participer, l'aider. Et si je traduis de manière un peu plus mathématique cette hypothèse, c'est utilisé par certains psychothérapeutes actuellement, comme Wolfgang Schörer par exemple. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aider une personne qui est attirée vers un attracteur. On peut penser à une habitude néfaste pour son bien-être, par exemple. Comment est-ce qu'on peut l'aider à reconfigurer un peu ce, ces reliefs de traction pour la faire passer soit vers un autre attracteur ou tout simplement vers d'autres types de comportements qui sont possibles. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on fait ça dans le cadre de la pédagogie musicale à travers l'improvisation. Ce travail-là, que je fais depuis quelques années maintenant avec Ilan Kadouche, utilise l'improvisation libre, c'est-à-dire sans consigne, et interactive, c'est-à-dire l'élève et le professeur jouent en même temps sur le même piano, comme un dispositif pédagogique qui permet l'apprentissage. C'est réalisé dans le cadre de l'école Kadouche, donc c'est une pédagogie qui existe depuis un quart de siècle environ, qui a été créée par Robert Kadouche, et son fils a créé, Ilan, a créé un laboratoire de recherche au sein d'une start-up, et on y travaille ensemble sur ces questions-là. Alors, avant que j'en parle, on va regarder une petite vidéo qui va vous faire voir ce qu'il est possible de faire. Ici, très volontairement, c'est une méthode qui s'adresse à tous, à tous les âges, mais on travaille surtout avec des enfants, ce qui rend la chose d'autant plus spectaculaire. C'est son premier cours. Hein. Il est très jeune. Alors, ça nous intéresse bien sûr d'un point de vue pédagogique, mais également d'un point de vue de la réflexion scientifique. L'improvisation, souvent, dans les sciences, on dit c'est le comportement de tous les jours, l'improvisation. On est toujours en train d'improviser lorsqu'on traverse la route, lorsqu'on discute avec des gens. C'est le comportement naturel. Donc, c'est tout le temps, l'improvisation. Et pourtant, quand on les étudie en sciences, on prend que des experts qui font de la musique 20 heures par jour depuis 40 ans. Alors là, on essaye, nous, de comprendre ce qui se passe dans l'improvisation, la créativité, en train de se faire, en train de naître chez l'enfant. Et on voit qu'ils sont très vite capables, lorsqu'on les laisse interagir de manière libre, de produire des performances. Alors, c'est peut-être pas toujours harmonique, bien sûr, mais ils sont capables de produire des performances expressives assez élevées. J'en parlais avec un psychomusicologue il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais dans absolument toutes les théories de la psychologie, si on appliquait les stades de développement, ce que le savoir individuel est capable de produire, ça serait même pas possible, ça. Parce que bien souvent, en compte, on ne prend pas cette force de l'interaction et sa capacité à offrir un appui pour le comportement individuel. Alors. Donc, je vais détailler maintenant un petit peu comment se passe une improvisation interactive avec un élève. Le genre de concept qu'on utilise pour les analyser, pour les comprendre, et le genre d'activité qui est utilisé par les professeurs pour faire réussir l'apprentissage via l'improvisation. Alors en général, la première action que fait le professeur au sein d'une improvisation dans le cadre d'un cours, c'est de valider ce que fait l'élève. Valider ce que fait l'élève, ça consiste soit à imiter son rythme, sa pulsation, sa tonalité, soit pas forcément limiter de manière stricte, mais lui offrir un appui, quelque chose qui autorise et qui rend juste le comportement de l'enfant. Ça fait rentrer dans ce qu'on appelle une phase de synchronie, c'est-à-dire on est ensemble dans l'écoulement du temps musical. On est bien dans la même musique, on essaye de créer un espace stable dans lequel on peut créer ensemble. Alors, je vais prendre ici un petit exemple. On va le réécouter. Là, c'est Lisa, c'est son premier cours, elle a 6 ans. voyez qu'elle démarre sur son petit motif, sur ses petites notes aiguës dont on reparlera après, et qu'au bout de quelques secondes, le professeur valide le tempo, le jeu, et d'un coup, l'espace devient plus harmonique, elle peut se reposer dessus, ça fait une musique qui est juste. De ce que j'ai dit avant, ici, ce qui se passe, c'est que l'élève peut se reposer sur le rythme du professeur pour rendre ses mouvements plus simples et accéder plus facilement à des gestes qui lui permettent de produire une musique correcte. Et de manière générale, elle peut s'appuyer sur ce processus d'interaction, donc obtenir plus d'effets pour moins d'efforts, et donc ça lui permet plus facilement de rentrer dans le cadre de l'improvisation. Donc ici, c'est vraiment une manière de stabiliser le jeu de l'enfant. Alors là, on a entendu ces petites notes, etc., qu'elle joue un petit peu en boucle, Lisa. Pendant les 3, 4, peut-être 5 premiers cours, en fait, systématiquement, ces improvisations tournent autour de ces notes-là. Ça correspond, c'est comme si son comportement était attiré, était sous l'effet d'un attracteur vers ces tendances spontanées. Ça répond à ce que je montrais tout à l'heure, cette petite modélisation en relief. Le comportement semble plonger littéralement vers un motif très particulier qui lui convient bien. Donc c'est ce qu'on appelle des tendances spontanées, on dit aussi des zones de réussite spontanée, c'est-à-dire des types de comportements, des motifs qui sont joués de manière, on va dire, stable et facile pour l'enfant, qui le reproduit de manière très récurrente, sans instruction de le faire. On ne lui demande pas de faire ça, mais il y revient de manière très régulière. Qu'il a tendance à conserver même lorsqu'on varie, lorsque le professeur varie un peu son jeu. Bref, c'est une sorte de préférence qui s'exprime de manière intuitive, spontanée. Je vais vous en faire écouter une autre pour se rendre compte. Ici, c'est Franz. Lui, sa tendance spontanée, c'est cette marche mélodique qui descend, qui descend. Elle concerne également sa manière de jouer, qui est très, très posée, très droite, comme ça, très régulière. Donc déjà, entre les deux, on s'aperçoit qu'une tendance spontanée, ça peut recouvrir des motifs très, très différents d'un enfant à l'autre. De manière générale, ils ont un petit peu chacun la leur ou les leurs. Ça peut concerner un rythme, ça peut concerner une tonalité, ça peut concerner une manière de jouer, d'appuyer sur le piano, ça peut être plein de choses différentes. Mais ils ont chacun, et dès le début en général, dès le premier cours, ils ont déjà un attracteur très fort, qui, dans ces deux cas-là que je vous présente, était extrêmement ancré. C'est-à-dire qu'il était difficile pour ces élèves d'en sortir. Alors, par ce jeu d'interaction, où le professeur se joint à l'élève pour valider ce qu'il est en train de faire, pour l'aider à le stabiliser, ça va permettre de stabiliser son répertoire personnel, de consolider un petit peu ces tendances spontanées. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'on cherche par là à appuyer la personnalité, à la renforcer. Mais c'est absolument insuffisant pour un ensemble de raisons. Tout d'abord, quid de l'apprentissage, puisque le but de la pédagogie, c'est d'apprendre, si on cherche juste à consolider ce que l'élève sait déjà un peu faire. Qu'en est-il également de la créativité si on encourage la stabilisation de ce qui lui vient spontanément à l'esprit? Peut-il s'émanciper de ces habitudes-là, de ces tendances spontanées? Peut-être c'est pas parce qu'il les joue de manière très récurrente que c'est ce qu'il a le plus envie de jouer. Donc est-ce que pour creuser sa personnalité, on n'aurait pas intérêt à aller voir ailleurs? Et puis enfin, comme il s'agit d'improviser ensemble, donc à la fin de proposer une création partagée, commune, qu'en est-il de l'interaction dans laquelle les tendances spontanées de quelqu'un d'autre peuvent rentrer en compte? Comment aboutir à une création qui soit réellement collective, c'est-à-dire auquel les deux personnes ont contribué? Alors on va réécouter Lisa. C'est un autre moment dans la même improvisation. Vous allez reconnaître un petit peu son motif mélodique favori. elle reste un petit peu bloquée dans ce système-là. Et si on entend au début, on voit que le professeur essaye un petit peu d'accélérer, de donner un autre ton, de la faire changer, de la faire varier. Et elle résiste complètement à l'interaction. C'est le cas le plus extrême qu'on ait eu, mais du coup, il est intéressant à discuter. J'aime mes trois notes. Je les garde. Donc là, dans ce cas-là, elle résiste complètement à l'interaction. Elle, en quelque sorte, elle n'admet pas l'autonomie du professeur qui peut avoir ses propres envies. Donc il faudra trouver une solution dont on va discuter ensuite. La solution très générale dans ces cas-là, c'est de problématiser la situation. Au lieu de la rendre facile par une stabilisation des mouvements, en accompagnant l'élève, en faisant la même chose que lui, en lui rendant ses tendances spontanées plus faciles, il va falloir faire émerger un problème, parce que s'il y a un problème, ça voudrait dire que l'élève sera obligé d'adopter une nouvelle solution, et donc de devenir créatif. Alors il y a une action qui se distingue de l'action de validation tout à l'heure, qui est opposée, qui est l'action de blocage, qui consiste à faire quelque chose de différent de ce que fait l'élève et même de quelque chose d'incompatible. Ce qui fait que même si l'élève continue à faire ce qu'il fait et qu'en soi, au niveau individuel, ce qu'il joue est juste, au niveau collectif, au niveau du duo, ça devient faux. Donc, il ne pourra pas conserver ce motif-là s'il veut que continuer à communiquer musicalement. Il sera obligé d'inventer quelque chose d'autre. Et ça entraîne donc non plus une phase de synchronie, mais une phase de diachronie, c'est-à-dire un moment où on n'est plus ensemble dans le temps musical. Alors, je vais utiliser l'exemple, c'est mon exemple, non pas favori, mais on va dire le plus explicite de ce que peut être une action de blocage. C'est rarement à ce point, mais celle-là, elle est manifeste, ça permet de comprendre ce que c'est d'un coup. Alors, je précise, c'est l'exemple de Franz tout à l'heure qui nous faisait cette petite marche mélodique qui descend tout le temps. Et quand Franz arrive à la fin du clavier, il faut qu'il joue autre chose. Et du coup, il repart. Et il fait la même chose, et puis voilà. Alors, quand l'improvisation s'arrête et que le professeur lui demande on va faire une autre improvisation cette fois. Et là, j'ai pas l'enregistrement, mais il dit bien une autre. Il appuie vraiment sur l'idée de faire autre chose. Franz dit d'accord, parce qu'il aime bien improviser. Il a envie de faire autre chose, et refait pareil. Et à chaque fois. Donc là, on est dans un cas où il est littéralement enfermé dans ses propres habitudes. Il est piégé par ses attracteurs qui constituent ses tendances spontanées. Et on sent qu'il a envie de faire autre chose, parce qu'il demande toujours à faire une nouvelle improvisation. On sent qu'il y a une attente de sa part envers le professeur de l'aider à se débloquer de cette situation, mais par lui-même, par ses propres moyens individuels, il n'y arrive pas. Donc, comme ces tendances spontanées sont chez lui très ancrées, il va falloir un blocage, on va dire, manifeste. Vous allez comprendre. Là, il y a un blocage qu'on appelle violent, il est clairement, voilà. Il est explicite, mais moins violent que le blocage de Franz dans ses propres habitudes. Et on entend qu'en très peu de temps, je vais juste remettre le passage, on va voir qu'il y a un petit moment d'incertitude où ni l'un ni l'autre ne savent quoi faire. Il y a ce petit moment où un ensemble de possibilités sont ouvertes parce que on est dans un espace libre et ici très indéterminé. Là, il essaye de refaire sa marche. Ça marche plus du tout. Non. Très indéterminé, suspension. Et là, il invente autre chose. Il change son rythme. Il change son jeu. Maintenant, il monte. Il n'y a plus que de descendre. Il invente plein de choses. Là, en 10-12 secondes, il a inventé plein de techniques qu'il ne savait pas faire avant, qui ont été permises par ce moment d'incertitude au niveau collectif. On a déstabilisé le processus d'interaction pour rendre nécessaire la réorganisation du comportement individuel. Donc là, il est soudainement capable de faire des choses dont il se soupçonnait lui-même, il ne soupçonnait pas qu'il pouvait les faire, quoi. Donc là, les changements sont radicaux. C'est ce qu'on appelle un apprentissage fulgurant. C'est-à-dire qu'il a appris à faire des choses dans l'espace d'une bifurcation du comportement qui a été permise par ce processus d'interaction. Et on peut entendre aussi à quel point le rythme a énormément changé du point de vue du professeur. Il n'a aucun problème à s'y synchroniser. Il a retrouvé un nouveau groove, quoi. Il a réussi à rentrer dans un état d'esprit musical complètement différent. Donc si je réadresse ça un petit peu dans le discours formel, scientifique de tout à l'heure, la manière dont on l'interprète, c'est qu'il y a une migration des attracteurs qui étaient d'abord au niveau individuel, qui nous plonge dans certaines habitudes, et puis, comme la situation est devenue instable au niveau collectif, elle permet de nouveaux agencements entre l'élève et le professeur, et donc de nouveaux attracteurs peuvent émerger au niveau collectif qui vont permettre au comportement de l'enfant de plonger vers une nouvelle solution qu'il ne connaissait pas encore à l'avance. Alors je vais prendre un autre exemple, c'est donc celui de Lisa qu'on a entendu avant. Elle, c'était encore plus difficile. C'est vraiment le cas le plus difficile, elle refusait vraiment l'interaction. Donc là, il y a une autre action de blocage, pour vous donner un exemple différent qui a été utilisé, c'est celui de l'écriture. Le professeur a, du coup, lui a expliqué verbalement à quel point elle n'écoutait pas ce qu'il faisait, en gros, et lui a proposé d'écrire sur une partition ses improvisations, pour qu'elle puisse prendre distance avec ses réalisations, et en prenant cette distance, se rendre compte qu'elle faisait toujours la même chose. Peut-être elle ne se rendait tout simplement pas compte. Et on va voir qu'après ce blocage via l'écriture, elle va pouvoir se rendre compte qu'elle n'admet pas l'autonomie du professeur, qu'elle ne fait pas rentrer en compte son jeu. Elle va maintenant pouvoir créer de nouvelles choses. Oui, voilà, c'était cet exemple. J'aime bien cet exemple parce que au début on entend, il y a toujours ces trois fameuses notes qu'elle répète inlassablement. Et maintenant qu'elle a compris qu'elle n'écoutait pas l'autre, cette fois au moment du blocage musical, quand le professeur change son motif, là elle va tout d'un coup déclencher une créativité nouvelle. Excusez-moi. Trois petites notes. Elle y réagit immédiatement. Elle est très synchrone. Cinquième couple. Mais à la fin, elle y revient quand même. La force de l'attracteur ne disparaît pas. Il est toujours très présent. Mais en agissant sur ces dynamiques collectives, en agissant par l'interaction, on peut, dans le contexte, dans l'activité créative en train de se faire, l'orienter jusqu'à un certain point. Bon, ça, je vais passer. Donc, va arriver l'heure de conclure. Donc, l'idée très globale qu'on cherche à faire passer ici, c'est que pour travailler la personnalité musicale et l'apprentissage musical, on cherche à ce que les élèves s'émancipent de leurs propres habitudes, plutôt qu'il ne se cristallise dedans. On a une vision parfois de l'artiste dans le monde occidental qui est sa personnalité, il fait que son truc à lui. Est-ce que c'est une bonne chose de faire que de répondre qu'à nos propres attracteurs, nos propres tendances? En tout cas, lorsqu'on veut apprendre à des enfants à interagir avec les autres dans le cadre de l'improvisation, c'est très certainement un obstacle. Je sais que beaucoup de gens qui pratiquent la danse ont une expérience également frustrante de leurs propres habitudes. Moi, je peux m'exprimer en tant que musicien et dire que c'est parfois un piège extrêmement douloureux, que ce soit en improvisation ou en composition, de replonger, comme Lisa à la fin de l'improvisation précédente, vers ce qui nous vient, ce qui nous tombe toujours sous la main. Donc l'idée ici, c'est de pratiquer un apprentissage qui permette d'ouvrir la flexibilité comportementale. Ce qui est très important ici, c'est que cet apprentissage-là, il n'est pas verbal, il n'est pas technique, il est réalisé dans les interactions avec le collectif. Et un niveau plus général, on va dire, c'est que pour nous, l'idée de l'individuation, de devenir une personne autonome, c'est un devenir constant qui se réalise dans cette dialectique, ce mélange de ces échanges d'épisodes de synchronie et de diachronie avec le collectif. Et c'est ce qui pousse, dans le cadre de ces improvisations, à donner également une individualité aux relations en train de se faire, c'est-à-dire de leur donner un sens propre, ce qui permet d'aboutir à des créations qui sont réellement partagées de manière collective, et non pas d'avoir simplement quelqu'un qui suit l'autre, comme quand Lisa n'écoute pas le professeur. Là, ce n'est pas une création partagée. Il se joint à elle, mais ils n'ont pas contribué tous deux de manière autonome à leur interaction. Lorsqu'on a la place, lorsque chacun a la place d'être autonome au sein d'une interaction, cette interaction-là, cette relation précise devient elle-même en quelque sorte autonome, elle devient un petit peu individuelle, elle est quelque chose à part. On a une réelle co-création. Alors pour finir, je préfère laisser parler musicalement les enfants. Pour les derniers mots, on va revoir une autre vidéo. Celle-là, c'est aussi un premier cours. Elle est assez fascinante à voir. En une minute à peu près, elle résume un petit peu toutes les idées qu'on vient de voir. Proposition, contre-proposition, synchronie, imitation spontanée, coordination abrupte, etc. Ah. Que les interactions mutuelles peuvent permettre en termes d'apprentissage et de créativité. Je vous remercie.